explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes en direct à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Ici, dans une semaine, une exposition événement ouvrira ses portes. Machu Picchu et les trésors du Pérou. Rien que le titre est la promesse d'un grand voyage dans l'espace et à travers le temps. Cette exposition immersive dont France Inter est partenaire nous emmène à la découverte de 3000 ans de civilisation, des origines aux Incas, avec tout au long du parcours des objets archéologiques à la valeur inestimable, céramiques sublimes, textiles somptueux, vaisselles luxueuses, parures en or et bijoux d'orfèvre, la plus grande collection péruvienne d'or et d'argent ayant jamais voyagé hors du pays est exposée ici. La plupart des objets ont déjà été installés dans les vitrines, les peintures sont à peine sèches et pendant que les techniciens règlent les derniers détails, nous allons avoir le privilège de découvrir avec vous en direct et en avant-première une semaine avant l'ouverture cette grande et belle exposition en compagnie de l'une de ses commissaires, Carole Fraresso, et de deux archéologues, Aïcha Bachir Bacha et Nicolas Guepfer, tous deux spécialistes des civilisations anciennes du Pérou. Claire Tesser et Stéphanie Texi ont préparé cette émission. Stéphane Combe la réalise avec à la technique Benjamin Perru. Ils sont installés derrière leur console de diffusion dans la salle du trésor, au milieu des parures et des bijoux en or. Soyez les bienvenus dans ce bivouac spécial en direct sur la piste des civilisations perdues du Pérou.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Une ambiance de jungle, un rugissement et la pluie tropicale. Nous sommes pourtant bien à l'intérieur du Palais de Chaillot, à la Cité de l'Architecture à Paris. C'est dans cette ambiance sonore que débute l'exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou. Carole Fraresso, l'une des deux commissaires de cette exposition, est là pour nous accueillir. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est donc en nous plongeant dans cette ambiance de nature et de forêt tropicale que vous nous invitez à nous immerger dans les cultures anciennes du Pérou, Carole.
Oui, c'est exactement ça. Nous sommes dans le centre historique de Machu Picchu, qui est l'un des symboles de l'Empire Inca connu mondialement et qui a été découvert par Hiram Bingham en 1911.
Ouais. Alors, faut se remettre dans l'époque. Hein. À cette époque, certainement, les populations locales ont connaissance de ce lieu, mais il est totalement ignoré de l'Occident, c'est ça ?
À la conquête en fait espagnole, hein, quand les Espagnols arrivent sur le territoire, l'empire Inca s'effondre et Machu Picchu, qui est quand même situé perché au sommet d'une montagne à 2400 mètres d'altitude, tombe un peu dans l'oubli. Ouais. Donc effectivement, quelques populations locales connaissent le lieu, mais il restera oublié pendant 500 ans.
Et quand il arrive, cet explorateur américain, et qu'il découvre le Machu Picchu au début du XXe siècle, il tombe sur quoi ? À quoi ressemble le Machu Picchu à ce moment-là ?
Le Machu Picchu est recouvert de végétation. Ouais. La forêt a repris ses droits, hein. La nature a repris ses droits, a recouvert le site. Et donc, il s'est retrouvé face à des constructions monumentales qu'il pouvait discerner sous cette végétation. Et il a dû évidemment commencer à revenir en fait sur une autre expédition pour défrichir un peu le site.
Oui, parce qu'aujourd'hui, évidemment, si on va sur le Machu Picchu, c'est beaucoup plus clair. Hein. On voit toutes ces ruines. Alors, deux archéologues sont avec nous pour nous accompagner tout au long de cette émission spéciale. Il y a Aïcha Bachir Bachar. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Nicolas Guepfer. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes tous les deux spécialistes des civilisations de l'ancien Pérou. On aura l'occasion, tout au long de cette émission, d'en savoir plus sur vos thèmes de recherche. Mais vous avez, l'un et l'autre, eu l'occasion de vous rendre au Machu Picchu. Quel souvenir vous en gardez, Nicolas Guepfer ?
Ben, un souvenir, c'est incroyable. En fait, c'est un site qui on peut comprendre la surprise d'Hiram Bingham il y a plus de 110 ans à la découverte de ce site. On peut l'avoir vu 1000 fois en photo à la télévision, et on reste épaté à chaque fois qu'on a la chance de pouvoir le visiter. Hein. C'est vraiment un des sites les plus emblématiques du Pérou et qui montre vraiment la richesse et la grandeur des sociétés anciennes du Pérou.
Qu'est-ce qui se passait là, Aïcha Bachir Bacha, dans ce lieu, le Machu Picchu, si emblématique?
Moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est de voir ces bouts de rochers et de montagnes desquels émergent des édifices. Et en fait, à première vue, on a l'impression que les bâtiments ne sont pas finis ou les édifices ne sont pas finis. Mais en fait, c'est une manière, je découvrais que c'est une manière, la manière des Incas de s'approprier un territoire et de construire sur des lieux sacrés qu'on appelle des huacas ou des apus. Des huacas, c'est des lieux sacrés. Les apus, c'est les lieux d'origine. De la naissance des ancêtres fondateurs. Et donc, j'avais devant moi un exemple vraiment parlant de ce qui est s'approprier un territoire et capter le naturel dans l'artificiel, c'est-à-dire dans le construit.
D'où cette ambiance de nature et de pluie tropicale. Parce qu'il faut bien le dire, cette cité, elle se trouve au-dessus des nuages, à moitié dans la brume. Elle est très en lien évidemment avec la montagne, à 2400 mètres d'altitude. Et c'est ce lien ténu que vous vouliez qu'on sente avec cette ambiance qui nous entoure, Carole.
Oui, c'est une ambiance verdoyante, luxuriante, humide aussi, parce qu'on est dans le bassin oriental amazonien. L'endroit est spectaculaire parce qu'on est au sommet d'une montagne, entouré d'autres montagnes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un panorama, on a cette citadelle qui est dressée effectivement au-dessus des nuages, vous êtes vraiment au-dessus des nuages, et vous êtes entouré des différentes divinités tutélaires autour. Ouais.
Alors, on est là chez les Incas. Les Incas, c'est un peu le peuple préhispanique, la civilisation préhispanique la plus connue de notre temps. Mais en fait, c'est un peu la civilisation qui cache tout un berceau, parce que, et c'est là tout le cœur de cette exposition, il s'agit de remonter aux origines, toutes ces civilisations qui ont vécu, qui ont émergé dans cette région du globe, bien avant les Incas.
Oui, c'est un petit peu, les Incas, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt.
Et oui.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a un empire qui s'est développé, qui a grandi de manière fulgurante, mais assez brève finalement. Les Incas ont un développement culturel de moins d'un siècle, hein, 80, 90 ans, la grande expansion de l'empire, sur une histoire d'un développement culturel qui a plus de 5000 ans.
Et c'est justement, alors 3000 ans de civilisation, on ne remonte pas jusqu'à 5000 ans en arrière, mais déjà 3000 ans de civilisation que vous nous invitez à découvrir avec cette exposition.
Exactement.
Ouais. Alors on va le découvrir ensemble, hein. C'est vraiment en avant-première parce que l'exposition n'est même pas encore installée. Là c'est encore relativement calme parce que tous les techniciens, toute l'équipe technique est en pause pour un quart d'heure. Mais quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait des perceuses, des chariots élévateurs, c'était la fourmilière. Ils seront prêts dans quelques jours, Carole?
Oui, tout sera prêt. Tout sera prêt, l'équipe est incroyable.
Oui. Et d'ailleurs, il y a un membre de cette équipe ici, c'est Bruno, je regarde le badge, hein. Il est directeur de production, Bruno Levacon. Bonjour à vous.
Bonjour.
On s'apprête à rentrer dans l'exposition, là on est un peu dans l'antichambre avec cette forêt sous la pluie. Il y a quelques consignes à respecter, hein, je crois, parce que là les objets sont d'une valeur inestimable.
C'est ça, et donc ne m'en veuillez pas si je bloque votre déambulation parce qu'on a encore des transferts d'œuvres qui vont rejoindre leur vitrine. Et là, évidemment, on est obligé de s'arrêter, de laisser passer et de laisser finir le travail.
Mais pour vous, alors c'est une chance incroyable d'accueillir ces objets qui ont traversé l'Atlantique, qui viennent du Pérou. C'est aussi une pression immense, hein, parce que là, il y a des objets en or, des parures, on en verra. Bon, rien que le transport de ces objets, ça a été toute une histoire. Et maintenant, vous êtes chargé de les accueillir. Il ne s'agit pas qu'ils disparaissent ou qu'ils s'abîment.
C'est clair, c'est une grande responsabilité, je la mesure pleinement. C'est pas ma première exposition, j'ai eu la chance d'en faire d'autres. Celle-ci est exceptionnelle, elle est vraiment très belle. Je découvre aussi, en même temps que je l'installe, eh bien, la qualité de ces civilisations, cette histoire qui est incroyable.
Ça fait combien de temps que l'installation de l'exposition est en œuvre?
Alors ça fait un mois qu'on est là, et donc dans encore une semaine de montage.
Il y a une émotion, ces objets, certains d'entre eux, vous avez pu les toucher, ou même vous n'avez pas le droit de les toucher?
Non, j'ai pas le droit de les toucher, j'ai pas le droit de les approcher trop près. Je peux m'approcher un petit peu, mais je dois être accompagné par les manipulateurs d'objets d'art qui, eux, sont les seuls à pouvoir les toucher.
et vous allez aussi nous accompagner pour surveiller qu'on n'abîme rien, qu'on n'empêche pas les techniciens de travailler. Merci d'être avec nous, hein. Du coup, bienvenue à bord. Nos deux archéologues, le directeur de production qui vérifie qu'on ne fait pas de bêtises, et avec nous également la commissaire de l'exposition. Nous partons à la découverte de cette exposition et nous allons entendre tout de suite une chanteuse péruvienne, Ima Sumac. Elle est une des descendantes reconnues du 13e et dernier empereur Inca Atahualpa. La commissaire de l'exposition lève les bras au ciel. Apparemment, ça vous enchante. Ima Sumac, elle est décédée en 2008 à l'âge de 86 ans. On l'écoute chanter Gopher. Sumac pour nous accompagner dans ce temps d'un bivouac spécial en direct de la Cité de l'Architecture à Paris, où l'exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou ouvrira ses portes dans une semaine. Ici, cela fait plusieurs jours, hein, presque un mois, que tout le monde s'affaire pour que tout soit prêt le jour J. Aujourd'hui, c'est assez calme, surtout parce que c'est la pause. Tout à l'heure, ça risque de s'animer un peu. Mais petit aperçu de l'ambiance qu'il y avait ici avant-hier, jeudi. Nous étions venus repérer les lieux avec Carole Fraresso, la commissaire de l'exposition.
Là, l'équipe est en train de faire les peintures, toutes les bases, les structures des vitrines. Bon, bah, il faut que tout soit parfait, propre. Donc là, nous avons l'équipe de Jackie, donc c'est l'équipe américaine du World Heritage Exhibitions qui est en charge de faire le montage des objets, donc réception des objets, sortie de caisse et montage dans les vitrines. Donc il n'y a qu'eux qui sont autorisés à toucher les objets. Et donc quand ce type d'opération est réalisé dans le musée, comme maintenant, en fait, on reste à distance et, pour éviter qu'il y ait un accident.
Donc là, il y a un cordon de sécurité autour. L'homme qui installe à une lampe frontale sur la tête des gants pour pas abîmer la pièce.
Donc là, il est en train d'adapter le support.
Avec une pince spéciale.
Avec une pince, donc il va déformer un petit peu les crochets.
Ça a l'air hyper minutieux, parce que là, ça fait plusieurs longues minutes qu'il est dessus, et manifestement, il n'a pas terminé. Hein.
Non, ça l'est, c'est un travail minutieux. Ouais. Là, on est sur une coupe cérémonielle en argent, dont la base est creuse, donc c'est un peu compliqué pour venir le fixer sur les supports.
Il ne faut pas rester.
Faut pas faire. Ok.
Carole Fraresso, on s'est gentiment fait virer hein, jeudi dernier. Même vous qui êtes l'une des deux commissaires de cette exposition, Machu Picchu et les trésors du Pérou, vous êtes priée de ne pas traîner dans les pattes de ceux qui installent ces objets dans l'exposition.
Moi comme les autres, c'est-à-dire que quand il y a un montage, tout ce qui touche aux objets, c'est-à-dire sortie de caisse, montage, préparation, enregistrement, je ne peux pas être là.
Ouais. Ça a été compliqué de faire venir toute cette collection depuis le Pérou jusqu'ici ?
C'est compliqué parce que cette exposition accueille 192 objets, donc cela demande énormément, plusieurs mois de préparation en amont avec les autorités péruviennes, le ministère de la Culture du Pérou, les musées.
Ce sont des objets qui ne voyagent pas seuls ?
Ce sont des objets qui ne voyagent pas seuls, ils voyagent avec une entreprise spécialisée dans le transport d'œuvres d'art, avec une assurance et avec un commissaire mandaté par le ministère de la Culture péruvienne.
Et jusqu'ici, tout se passe bien. Ils sont pour la plupart bien installés dans les vitrines. Juste devant nous, nous avons un petit bol hautement symbolique, fait d'or et d'argent. J'ai d'ailleurs mis une photo de ce petit bol sur la page Facebook et sur l'Instagram du Temps d'un Bivouac pour ceux qui voudraient le voir. Décrivez-le nous et dites-nous d'où il vient, quelle est l'histoire de ce petit bol.
Alors, c'est un bol cérémoniel utilisé dans les rituels de libation liés à la fertilité. C'est une pièce, l'une des pièces majeures de l'exposition, comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Celle-ci est incroyablement remarquable parce qu'elle est constituée de deux feuilles de métal, ouais, une en or, une en argent, qui sont soudées entre elles. Et le bol est décoré d'une scène mythologique gravée. Ouais. Donc, ce qu'il nous indique, ce bol, ce qu'il nous signale, c'est un concept fondamental de la cosmovision andine qui est la dualité. C'est-à-dire que dans les Andes, pour les populations anciennes, la notion de dualité, c'est-à-dire ces forces opposées qui se rencontrent, vont créer quelque chose de nouveau, qu'on appelle en quechua le tinkui.
L'or, ça symbolise quelle partie de l'univers, de la cosmogonie de ces civilisations ?
Alors l'or et l'argent sont deux astres célestes hein, du ouais. monde d'en haut, des dieux. Dans les chroniques hein, espagnoles du XVIe siècle, on peut voir que l'or est associé à la sueur du soleil ouais. et l'argent est associé aux larmes de la lune.
Et le soleil et l'or plutôt au genre des hommes et puis l'argent aux femmes, c'est ça ?
Oui, c'est ce qui se définit aussi, c'est-à-dire qu'on a un métal plutôt lié aux forces masculines et un ouais. métal plutôt lié aux forces féminines.
Et alors, si on jette, on est dans une galerie avec des objets, on ne sait où donner de la tête, et il y a juste derrière nous des objets assez explicites. Très clairement, ce sont des scènes un peu orgiaques, c'est très érotique, on a des phallus en érection. Ça nous dit quoi de la culture inca, cette vitrine ?
Ça nous dit que le sexe...
Enfin, inca, civilisation inca, précolombienne. Hein.
Nous sommes là, clairement, dans une vitrine, on a des objets qui nous montrent des activités sexuelles qui sont considérées par les sociétés de l'ancien Pérou comme des activités rituelles. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez voir des scènes que l'on va dire de reproduction, où l'on va voir un homme et une femme en train de s'accoupler. Et en fait, cette rencontre de ces forces opposées, l'homme et la femme, va générer quelque chose de nouveau, qui est un enfant. Donc, on donne naissance à quelque chose. Et puis, vous allez avoir des scènes un peu plus osées, très explicites, très réalistes, hein, ouais. où on va voir des scènes de fellation, des scènes de masturbation, d'attouchement, qui vont montrer plutôt des scènes de non-reproduction. C'est-à-dire qu'ici, l'objectif n'est pas la production, la naissance d'un enfant, d'un être vivant, mais plutôt la récupération du fluide sacré, symbolique, du sperme.
C'est-à-dire que dans ces réceptacles, on pouvait par exemple récolter du sperme, et puis après on en faisait quoi une fois que c'était récolté là-dedans ?
Alors généralement, ces céramiques contiennent des liquides symboliques, vitaux et aussi réels. On va avoir de l'eau, de la chicha, qui est ouais. la bière de maïs fermentée, mais il peut y avoir aussi des fluides, des liquides symboliques, comme le sperme. Mmh. En fait, ce sperme est finalement associé, là on voit des personnages un peu cadavériques, avec un sexe disproportionné, il fait référence à l'ancêtre, aux habitants du monde d'en bas, qui vont fertiliser le monde humide intérieur de la terre-mère, d'où va pousser les plantes.
Alors dans cette vitrine, il y a bien d'autres choses et notamment, on se rend compte là encore du lien avec le monde animal, les oiseaux, les félins, tout ça est représenté dans les vitrines autour de nous.
Alors ici, on est clairement devant trois animaux sacrés pour toutes les sociétés andines, pour les Incas aussi, hein, ce sont des animaux que l'on verra sur divers supports matériels. Donc on a, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les populations andines, le monde était constitué de trois niveaux. Le monde supérieur, des dieux célestes, qui est symbolisé par l'oiseau, cet animal qui peut accéder jusqu'au soleil. Ouais. Ensuite, vous avez le monde intérieur, sombre, humide, où se faufile le serpent. Et c'est le lieu qui est habité par les morts et les ancêtres. Et au milieu de ces deux plans, sur le plan terrestre, vous avez le monde d'ici et maintenant, où les êtres vivants, les hommes, les femmes, ont leurs activités quotidiennes et où ils travaillent la terre.
Chacun de ces objets, pour vous et pour les chercheurs, les archéologues, les scientifiques, c'est une pièce d'un grand puzzle. À lui tout seul, l'objet ne dit finalement pas grand-chose, mais assemblé, c'est tout un univers, toute une façon de penser que vous êtes en train de décrypter.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que les objets qui sont présentés dans cette exposition, ils n'ont pas été choisis par hasard. Il a fallu faire une sélection judicieuse de pièces, de les assembler entre elles. Mais cette sélection a été faite à partir de recherches. Hein. Il faut quand même spécifier que ça fait plus d'un siècle qu'il y a des fouilles archéologiques au Pérou, de différentes... des fouilles internationales. Et donc, en fait, à partir de ces résultats, on arrive à reconstituer l'histoire de la cosmovision andine.
Nicolas Guepfer, vous, l'archéologue, il est où, Nicolas ? Il est là. Vous, l'archéologue, vous avez évidemment fouillé le sol péruvien. Quel souvenir vous avez d'un objet que vous avez découvert, qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, j'ai un souvenir en particulier, c'est la découverte d'une petite idole en bois qui ressemble à l'idole que décrit et que dessine Hergé dans l'oreille cassée.
Ah oui, la petite statuette en bois avec la fameuse oreille cassée, vous avez découvert quelque chose qui ressemblait très proche.
Et dans Hergé, elle est décrite comme une fétiche Arumbaya et en réalité, c'est une idole Chimú. Une des sociétés préhispaniques.
Oui, c'est ça. Là, on rentre dans les différents noms de ces civilisations préhispaniques. Et il y a effectivement les Chimú ou les Arumbaya. Alors, Aïcha Bachar, vous aussi archéologue, quel souvenir vous avez de découverte dans le sol péruvien qui vous a marqué, vous ?
Ouais, ce qui m'a marqué, c'est la découverte et la rencontre avec un guerrier Paracas sous forme de tête trophée. Voilà, donc en enlevant le sable, je tombe nez à nez, et c'est le cas de le dire, parce qu'on voyait, justement cette partie-là du visage. Et donc en fouillant, on tombe sur ce guerrier qui avait les cheveux longs. C'est pour ça qu'on comprend que c'est un guerrier. Ouais. Et puis j'étais impressionnée par toutes les informations et les traces qui pouvaient nous parler de la guerre, du sacrifice humain. Il avait une blessure sur le front, qui avait guéri. Il a survécu à sa blessure parce qu'on voyait bien que l'os s'est régénéré. Et puis, il avait le visage recouvert par deux couches d'argile. Et entre ces deux couches-là, on avait un textile. Il avait aussi, comme on peut le voir aussi peut-être dans l'exposition et sur certaines images de tête trophée, il avait les lèvres qui étaient fermées avec deux épines. Voilà.
Et ça vous a bouleversé. Vous avez eu l'impression de converser avec cet homme qui avait quoi, 1000 ans, 1000 ans
Plus de 2000 ans pour les Paracas, 500 avant JC.
Vous avez évoqué un aspect particulier, vous avez évoqué le sacrifice. Et justement, en avançant dans l'exposition, hein, où traînent encore de ci, de là, des échelles, des élévateurs, enfin, on sent que tout n'est pas encore complètement prêt. Ça le sera dans une semaine pour accueillir le grand public. Mais là, nous entrons dans une salle un peu particulière, la salle des sacrifices. Vous avez soigné les ambiances, hein, Carole, parce que là, la musique que l'on entend, c'est la musique de cette salle des sacrifices. C'était important, vraiment. C'est une exposition immersive. Il s'agit vraiment pas de nous faire défiler des objets devant les yeux, mais de nous imprégner de toute une culture, de toute une ambiance.
Oui, c'était finalement le grand défi de cette exposition a été de savoir comment vous immerger totalement dans cet univers richissime et très différent de nos cultures occidentales. Donc il y a la musique, évidemment, l'ambiance sonore qui est réalisée d'ailleurs à partir d'instruments archéologiques. Donc ça aussi c'est la partie expérimentale qui est liée à la recherche et bien évidemment les lumières et tous les supports numériques qui sont aujourd'hui incroyables pour faire vivre le discours narratif.
Il faut que vous nous décriviez, hein, parce que cette salle, elle est quand même un petit peu à part, une ambiance assez rouge, et puis on a un autel reconstitué devant nous.
Ici, nous nous trouvons dans la salle du sacrifice Mochika, hein, ce qu'on appelle, qui a été créée à partir d'une céramique, une seule céramique qui fait partie de la collection du musée d'Arco, qui montre en fait comment se déroulait ce sacrifice, depuis la capture des prisonniers jusqu'à l'offrande de la coupe contenant le sang sacré des guerriers. Et donc, ces rituels-là, cette cérémonie, avait lieu dans des espaces extrêmement restreints. On a archéologiquement des vestiges qui nous prouvent, par exemple, à la Huaca de la Luna, à côte nord du Pérou, où étaient réalisés ces rituels.
Ouais. Nicolas Guepfer, vous êtes spécialiste, c'est l'un de vos thèmes de recherche, hein, le sacrifice dans ces civilisations pré-incaïques. Dans quel cadre, comment se passaient ces sacrifices, pourquoi on sacrifiait?
Alors, on s'est rendu compte, grâce aux fouilles récentes, que les sacrifices, donc, qui étaient une des activités les plus importantes, les rituels les plus importants des civilisations andines, qu'elle s'est durée notamment lors d'événements climatiques importants de type El Niño, ouais, qui provoquait de fortes pluies dans un milieu qui lui est aride et désertique et donc provoquait un bouleversement de l'ordre établi qu'il fallait essayer de rétablir. Ouais. Et donc les élites procédaient à des sacrifices.
Mais qui on sacrifiait alors?
Alors ça dépend des cultures. Chez les Mochika, on sacrifiait de jeunes adultes guerriers. Chez les Chimú, on a sacrifié des enfants, par exemple. Et les Incas, pareil, par le rite de la Capacocha, on avait des enfants qui étaient sacrifiés, donc probablement le bien le plus précieux de ces sociétés.
C'est-à-dire qu'on a retrouvé des momies, notamment d'adolescents, d'enfants, qui ont été sacrifiés. Alors, si j'ai bien compris, on emmenait ces adolescents dans une grande procession, jusqu'à 6000 mètres d'altitude, en tout cas chez les Incas, avant de procéder au sacrifice.
Exactement. Ils étaient même laissés endormis. Hein. Il y avait, chez les Incas, dans les sacrifices de haute altitude, les enfants étaient laissés sur place, endormis, et du coup sacrifiés de cette façon. Chez les Chimú, on a des techniques de sacrifice un peu plus cruelles, disons, avec extraction du cœur du vivant des enfants. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable.
Oui, alors oui, c'est assez incroyable, un peu terrifiant, même beaucoup, hein, on va le dire. Vous osez à peine dire que c'est un peu cruel. Est-ce qu'il faut complètement changer de lunettes, oublier notre culture, nos représentations à nous, et essayer de se projeter 1000 ans, 2000 ans en arrière, et essayer de comprendre pourquoi ils faisaient ça pour les enfants, par exemple, les adolescents qui étaient sacrifiés, c'était un honneur, c'était terrifiant, c'était les familles étaient peinées de ce qui arrivait ou au contraire, ils voyaient un honneur?
Probablement les deux.
Ouais.
On ne peut pas écarter l'aspect familial. Forcément, en sacrifiant, en offrant son enfant, on avait forcément la douleur familiale. Et en même temps, c'était probablement un honneur d'être sacrifié pour les élites de ces populations-là.
Alors ces cérémonies de sacrifice étaient accompagnées de musique. On va en entendre une que vous nous avez offerte notamment. Donc là, Carole, là c'est vraiment une musique reconstituée avec des instruments de l'époque qui sont exposés d'ailleurs, hein, dans une vitrine.
Certains sont exposés, oui. Alors on a des instruments, on a des représentations d'instruments en fait, d'officiants religieux qui jouent de la flûte, de la flûte de Pan, du tambour, qui sont des instruments traditionnels dans les Andes. Ici, par exemple, vous avez une paire de flûtes de Pan en céramique, ce qui est quand même inusuel. Mais ces objets marchent, fonctionnent et produisent des sons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont par paire. Pourquoi ? Parce que la musique se joue toujours en relation à cette dualité. C'est une sorte de conversation qui va se créer entre les deux musiciens.
Les deux musiciens se répondent.
Oui,
C'est un langage.
C'est un langage, la musique. Allez, on poursuit notre cheminement dans l'exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou. On va s'intéresser dans un instant à une des grandes énigmes des civilisations préhispaniques, les gigantesques dessins visibles depuis le ciel, gravés dans la pampa péruvienne par le peuple Nazca. C'était Amour toujours de Clara Luciani.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Ce pilote chevronné a découvert plus de 350 de ces géoglyphes qui ont suscité tant de curiosité dans le monde entier. À ce stade de l'enquête, la connaissance acquise sur les Nazca permet-elle de résoudre ce qui demeure la plus grande énigme laissée par ce peuple? Ces lignes gigantesques, ces figures colossales gravées dans le décor lunaire de la pampa désertique, sur plus de 500 km², et qui ne peuvent être observées que du ciel. À certains endroits, des figures géométriques simples se superposent à d'autres aux formes plus travaillées, tout simplement parce que ces lignes ont été réalisées sur plus de 1000 ans, et que les artistes dessinaient parfois sur de vieux tracés.
La jolie voix de Bernard Giraudot pour évoquer les gigantesques dessins laissés par les Nazca. On trouve dans l'exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou, que nous découvrons ensemble en direct en avant-première, des objets issus de la civilisation Nazca. Il y a par exemple ce tambour Nazca juste à côté de moi. Aïcha Bachir Bacha, vous êtes archéologue, vous êtes l'une des spécialistes des Nazca. Qui étaient-ils, les Nazca ?
Alors Nazca, c'est une culture qui se développe sur la côte sud du Pérou, dans l'un des déserts les plus arides du monde, entre les années 100 avant JC et 600 après JC. Alors les Nazca étaient très connus grâce à leur céramique polychrome, dont, enfin, on en a une ici devant nous.
C'est un tambour, tambour à l'envers.
Oui, c'est un tambour. Ouais. Et ils sont aussi connus grâce à leur textile brodé, et parfois incrustés de plumes, mais on oublie souvent que les Nazca sont aussi des grands bâtisseurs. C'est eux qui ont construit les pyramides de Cahuachi, du célèbre site archéologique de Cahuachi. C'est eux aussi qui ont créé et construit les puquios, c'est-à-dire des galeries filtrantes, et évidemment les fameux géoglyphes.
Les géoglyphes, ces dessins, alors c'est vrai que c'est très spectaculaire, on en a tous vu des images, ou si c'est pas le cas, faut aller jeter un œil sur Internet. Ça se voit en avion et on voit dans ce sol hyper aride de la Pampa des formes géométriques et parfois même des animaux, un colibri géant, mais ce sont des figures qui font plusieurs dizaines voire centaines de mètres.
Par exemple la représentation du singe fait à peu près 200 mètres, l'araignée 40 mètres, la baleine entre 20 et 30 mètres.
Mais ça paraît un peu incroyable. Comment ils ont réalisé déjà ces dessins sans avoir le recul suffisant pour depuis le ciel? C'est vrai que ça a fait naître plein de théories plus farfelues les unes que les autres. Ils ont été aidés par les extraterrestres. Enfin, souvent avec ces civilisations anciennes, on part dans des élucubrations. Comment ils s'y sont pris réellement?
À vrai dire, la complexité des géoglyphes n'est pas dans leur construction. Ah oui. Mais je vais dire, en fait, il suffisait juste d'écarter la première couche de la pampa, qui est une couche de galets et de gravats, qui est de couleur un peu grise, rougeâtre, pour laisser apparaître une couche moins plus claire, moins foncée, qui est une couche plutôt gypseuse et sablonneuse, qui est de couleur un peu jaune et claire. Et donc, le contraste entre les deux peut faire apparaître justement les traits. Ouais. Pour les figures, il suffisait d'avoir un prototype et de l'agrandir. Ouais. Il faut pas oublier.
On va laisser passer un chariot parce que pendant qu'on discute, il y a évidemment l'exposition qui est en train de se construire. On laisse passer ce monsieur avec son chariot. Pardon, on vous écoute.
Et merci, donc, monsieur. Avec juste des piquets et des cordes, on pouvait avoir une sorte de compas géant pour dessiner ces figures. En fait, comme je disais tout à l'heure, la complexité des géoglyphes, elle n'est pas dans leur construction. Elle est plutôt dans le fait que les Nazca et l'élite Nazca étaient capables de mobiliser un nombre important de gens pour justement construire ces géoglyphes. Et surtout, il faut pas oublier que cette tradition, elle a duré plus de 600 ans et elle continue même après les Nazca.
Mais pourquoi ils faisaient ça, pardon?
Justement, l'une des complexités donc de ce phénomène culturel, c'est de mobiliser aussi des gens pour faire des rituels et faire des cérémonies sur plusieurs siècles sur ces lignes. Donc, pour parler de la fonction des géoglyphes, on s'intéresse à l'heure, au lieu où ils ont été construits, au matériel associé à ces géoglyphes et aussi à leur orientation. Donc, les géoglyphes ne peuvent pas avoir une seule fonction. Ils ont plusieurs fonctions. Ça dépend aussi de leur support. Par exemple, les figures qui sont tracées dans les pampas entre les villes actuelles de Palpa et de Nazca, ce sont des figures qui ont, par exemple, une entrée et une sortie. Ouais. Donc, imaginez des gens marcher sur ces géoglyphes et à partir d'une certaine hauteur, on a des figures vivantes. Ouais. Et ces figures sont destinées, bien sûr, comme disait Carole tout à l'heure, aux dieux du ciel, enfin au ciel, c'est-à-dire aux divinités.
Ça devait être absolument fabuleux à voir. J'imagine que des reconstitutions ont dû être faites, de voir depuis le ciel ces figures prendre vie, finalement, bouger avec ces humains qui en tracent les contours en marchant. Ça devait être sublime.
Oui. Oui. Et puis, il faut pas cette idée de les voir simplement du ciel. Elle est pas tout à fait vraie parce qu'on peut très bien les voir, par exemple, d'une colline ou d'une hauteur, voilà. Et puis, vous avez d'autres géoglyphes qui sont vraiment d'une dimension beaucoup plus réduite, qui sont sur les flancs des montagnes. Et ces géoglyphes-là, bien sûr, on peut pas les traverser. En fait, c'était comme des panneaux publicitaires qu'on regardait et qu'on voyait quand on se promenait justement dans les pampas. Ouais.
Parmi les géoglyphes que les Nazca ont laissés, il y a un gigantesque oiseau dessiné sur le sol que l'on peut voir donc en survolant la zone et peut-être en se mettant sur une montagne plus lointaine. Les Incas sont arrivés bien après, mais certains chercheurs se sont intéressés à l'aspect du Machu Picchu de ces Incas, à l'aspect vu du ciel. Voici ce qu'affirme à ce sujet l'archéologue Luis Jaime Castillo, qui a été ministre de la Culture au Pérou.
Nous avons survolé le Machu Picchu avec un drone pour en faire une modélisation. Et voici ce que donne la reconstitution du site en 3D. C'est exceptionnel. On voit ici la tête avec le bec et un bras tendu. C'est donc un oiseau anthropomorphique. On a ensuite le torse, les pattes qui sont étirées en arrière, la queue et les ailes. C'est intéressant parce que selon certains chercheurs, le terme Picchu de Machu Picchu signifierait justement oiseau.
Voilà une théorie intéressante. Vue du ciel, le Machu Picchu aurait aussi la forme d'un oiseau. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Guepfer?
Alors c'est vraiment intéressant puisqu'on sait que pour les Incas, possiblement les sites avaient des formes animales. On a aussi la ville de Cusco dont la tête serait Sacsayhuaman, serait un puma.
Cusco, donc, c'était la capitale des Incas.
C'était ça, exactement. Et donc on a cette théorie sur la fonction, enfin sur la représentation d'animaux et dans l'architecture des villes. Alors il faut comprendre que tout ça s'insère dans un paysage sacré, comme on l'a dit précédemment, avec des montagnes tutélaires et un ensemble de points de repère, de séquesses, donc des lignes imaginaires qui étaient sacrées et qui organisaient un peu l'espace des sites Incas. Mmh.
Donc c'est une théorie quand même. Est-ce que, Carole, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que le Machu Picchu a la forme d'un oiseau ou est-ce qu'à force de vouloir faire des symboles, on en voit un peu partout?
Mais écoutez, je sais pas parce que je n'ai pas pu voir on peut pas voir le site en fait avec la vision d'un oiseau, mais ouais. Par contre, je pense que je vais tester la réalité virtuelle et essayer de voir si effectivement ouais. On peut percevoir cette forme d'oiseau.
Parce qu'effectivement, l'exposition à la toute fin de l'exposition, on peut aller visiter grâce à en réalité virtuelle ce site incroyable des Incas, le Machu Picchu. Parlons-en un peu de ces Incas quand même parce qu'il y a presque une énigme, quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que pendant 3000 ans, des civilisations se sont succédées dans ce Pérou qui est vraiment un berceau de civilisations. C'est-à-dire que pendant que le long de la Méditerranée, en Égypte, à Rome, des civilisations naissaient indépendamment, on a là un berceau gigantesque de civilisations qui n'ont rien à leur envier. Mais voilà qu'en 1450, par là, émerge cette civilisation Inca qui, en un siècle, va étendre un empire gigantesque qui s'étend sur plus de 4000 kilomètres de long, je crois, Carole. Comment s'y sont-ils pris? Comment ont-ils fait pour dominer toutes les autres civilisations alentour?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Empire Inca, au départ, vers 1200-1300 de notre ère, ce n'est pas un empire, ce sont différents groupes ethniques, communautaires, qui se développent principalement dans le bassin du lac Titicaca, on est dans les hauts plateaux andins, et donc ils sont dans des zones qui sont rudes, hein. On est dans la cordillère des Andes, ils développent l'agriculture, et en fait, avec Viracocha, le huitième Inca, des guerres, des conquêtes vont démarrer dans des périodes où il y a certains conflits entre ces différentes ethnies qui sont fragilisées, et donc l'Inca va commencer à entrer en guerre avec des ethnies, l'empire va s'affirmer politiquement, et c'est surtout avec son fils Pachacutec qui construit en 1440-1450 le Machu Picchu que l'empire va s'étendre jusque sur tout cet espace.
Mais pour que une population relativement restreinte, hein, 40 000 personnes appartenaient à ce groupe, prennent la domination sur plus de 10 millions de personnes, qu'avait-il de plus? C'est l'art de la guerre, c'est l'art de la persuasion, de la négociation. Où était la force des Incas?
Les deux. L'art de la guerre, effectivement, ouais. Ce sont des militaires. Et en fait, dès qu'un groupe était assujetti à cet état Inca, en fait, les troupes
grandissait les troupes de l'Inca qui existaient déjà. Donc en fait, la guerre, les conquêtes ont été finalement le premier atout, le deuxième atout, et que à travers cela, ils ont aussi pu diffuser leur art, entre guillemets, leur vaisselle, leur symbole religieux, mais aussi politique, et asseoir l'hégémonie.
C'est vrai qu'ils ont construit un réseau routier très efficace. En fait, on pouvait traverser ces 4000 kilomètres d'empire avec ses montagnes, son désert, on pouvait les traverser grâce à un système de route particulièrement performant.
À l'arrivée des Espagnols, en fait, quand ils se rencontrent, ils se retrouvent confrontés à l'Empire Inca. Le territoire Inca fait 950 000 km carrés. Et donc, pour pouvoir gérer, en fait, les différentes cités qui sont réparties sur ce vaste territoire, les Incas ont développé un réseau routier extrêmement efficace, empierré. Alors, ils ont récupéré les chemins qui avaient été déjà développés par la culture Wari. Et ils l'ont agrandi. Et en fait, ces systèmes-là permettent effectivement de mobiliser les armées, de transporter la nourriture, les messages aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même prévenir Cusco, la capitale inca, de ce qui se passe dans les autres régions.
Là aussi, le système de messager était très efficace.
Très efficace. La poste, à l'époque inca, elle était parfaite.
C'est une personne qui partait, qui transportait le message sur un tronçon bien donné, et hop, on passe le relais de façon à ce qu'on ne s'épuise pas.
Exactement. Donc, de l'un à l'autre en relais.
Ouais. L'Empire Inca s'est effondré aussi vite qu'il s'était édifié. Nous allons y revenir dans la dernière partie de cette émission. J'aperçois devant moi la salle du trésor. Nous allons y accéder dans un instant. De nouveau, cette musique qui nous met dans l'ambiance. Alors moi, j'appelle ça la salle du trésor, mais vous êtes plus précis dans l'exposition, Carole. Où on est exactement ?
Ici, on est dans la salle des ancêtres de l'ancien Pérou, c'est-à-dire ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Pérou.
Oui, alors il faut quand même décrire cet endroit. Ça étincelle, ça brille de partout. On a des parures. J'ai face à moi un mannequin qui porte une couronne gigantesque en or, un plastron imposant en or, avec une sorte de collier de boule qui lui fait le tour du cou, et puis des épaulettes et des boucles d'oreilles, mais on dirait des platartes, ces boucles d'oreilles, tellement elles sont grandes, en or. Oui, pardon, j'ai pas les termes très, très techniques, mais il faut bien qu'on se les figure. Ça appartient à qui, cette parure face à moi?
La parure que nous avons devant nous est un trousseau funéraire d'un empereur Qimu. Donc Qimu, nous nous trouvons entre 1100 et 1400 après Jésus-Christ. Hein. Les Incas vont conquérir le royaume Qimu. Donc il faut se dire que Pachacutec a dû rencontrer l'un de ses empereurs pour négocier avec lui. Ici, clairement, on est devant l'un des savoir-faire emblématiques de l'ancien Pérou. On a tous en tête l'or du Pérou, les trésors. Effectivement, il y a des trésors. Et il y en a encore à découvrir, il en reste.
Ouais. Vous dites ça comme si c'était une évidence. Ça veut dire que c'est pas un mythe, l'idée qu'il y a des cités perdues dans la jungle, des montagnes péruviennes, qu'il y a peut-être des trésors enfouis à découvrir?
Alors, des cités enfouies, je ne sais pas, parce que ça fait quand même plusieurs siècles depuis que les Espagnols le cherchent, qu'ils ne les ont pas trouvées. Par contre, des tombes royales, oui, ça, les archéologues en trouvent encore.
Alors, qu'est-ce qu'en pensent nos archéologues, Nicolas Guepfer? Il y a encore des merveilles à découvrir dans ce Pérou?
Bon, je suis assez d'accord hein, sur les sites, peut-être pas, quoique sous la jungle, on peut en trouver, mais les trésors et les grandes tombes, on en trouve, pas chaque année, mais fréquemment, et c'est vraiment à chaque fois une surprise de voir à quel point ses ancêtres, ses grands seigneurs étaient accompagnés d'un mobilier funéraire assez incroyable.
Aïcha Bachar Bacha, effectivement, depuis le temps que les archéologues fouillent, creusent, arpentent ces terres péruviennes, il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été mises au jour.
Oui, tout à fait. Sous le sable du désert, il y a même peut-être des villes, il y a encore des momies à découvrir. Et comme disait Carole, des ancêtres qui vraiment nous renseignent, dont le mobilier funéraire nous renseigne sur la vie, sur la mort, même sur la vie quotidienne de ces populations-là.
Disons un mot de toutes ces parures, Carole Fraresco. Il y a de l'argent, de l'or. On est sur plusieurs millénaires de civilisations devant nous. Pourquoi, au travers de toutes ces civilisations, l'or avait autant d'importance? C'était pas une importance marchande.
Non, absolument pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux visions du monde. Quand les Espagnols arrivent au Pérou, ils sont confrontés à une vision du monde qui est complètement différente. C'est ce que nous expliquons au début de l'exposition. Et donc, la valeur de l'or pour les anciens péruviens n'était absolument pas marchande. Ce n'est pas un matériau qui est monnayable. Voilà, c'est le mot exact. Pour eux, l'or, l'argent et les métaux précieux font référence aux divinités, aux forces solaires, aux forces lunaires, aux astres. Et donc, ils permettent de marquer l'identité divine et ancestrale du leader.
C'est de l'or pur qu'on a là devant nous.
Alors, les orfèvres de l'ancien Pérou étaient des malins, des petits malins, oui, ingénieux. Ils ont inventé divers procédés. Donc, ils travaillent effectivement de l'or de 18 carats, 20 carats, 22 carats aussi. Donc, des ors naturellement riches. Mais ils savent aussi mélanger les différents métaux pour obtenir différentes gammes de couleurs, allant du rosé au jaune étincelant, qui peut répondre en fait aux usages et aux utilisations lors des rituels. Ils sont aussi des inventeurs de procédés de dorure qui permettent d'économiser la matière précieuse.
C'est léger ou pas ce qu'ils portent? Parce que c'est très impressionnant, ça paraît très volumineux à porter, c'est lourd, cet attirail tout d'or fabriqué.
Alors non, on est sur des objets effectivement extrêmement imposant, c'est la caractéristique de la parure précolombienne du Pérou. Les objets doivent être monumentaux, ils doivent être également extrêmement légers pour être fonctionnels. Donc on est sur des feuilles de métal inférieures à 1 mm d'épaisseur qui sont mises en forme par martelage. C'est-à-dire que là, on travaille pas avec des moules, on va frapper le métal jusqu'à obtenir de grandes feuilles de métal.
Ça implique un savoir-faire, ça a l'air de rien, mais ça implique un savoir-faire incroyable, parce que pour obtenir cette finesse de couche d'or, il suffit pas de taper avec un marteau, il y a tout un procédé pour pas que le métal casse.
Ah oui, si vous tapez simplement et bêtement le lingot, il y a un moment donné où il va durcir et puis il va casser. Et donc, il faut recommencer le travail. En fait, ils savent gérer les différentes étapes des chaînes opératoires. Donc, ils vont marteler. Ensuite, ils vont appliquer un recuit dans un foyer ouvert, dans un four, en dessous du point de fusion, qui va permettre en fait de redonner la malléabilité au métal et permettre de recommencer sa déformation. Et ainsi de suite. Différentes passes, comme ça, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée.
On a là une idée de tout ce savoir-faire que maîtrisaient ces civilisations très anciennes. Alors là, les boucles d'oreilles sont gigantesques. Je crois que c'est très important. Hein. La taille de la boucle d'oreille pour toutes ces civilisations, c'était le pouvoir. Hein. Il fallait avoir les plus grosses boucles d'oreilles possibles.
Oui, la plus grosse, on va dire. Oui. Non. Tous ces symboles, en fait, ici sur cette parure, que ce soit la couronne, les boucles d'oreilles, le pectoral, ils envoient un message. De toute façon, ces objets sont aussi des appareils idéologiques qui permettent de communiquer des messages. Il n'y a pas de système d'écriture dans les sociétés anciennes. Par contre, à travers les vestiges matériels, il y a un langage. Les boucles d'oreilles, par exemple, signalent le pouvoir suprême des leaders. Et d'ailleurs, quand les Espagnols arrivent et qu'ils voient les lobes déformés si grands des Espagnols, ils vont les appeler orejones, les grandes oreilles.
Les grandes oreilles, oui, apparemment, c'est un peu péjoratif. Dans cette salle, il n'y a pas de parure inca. Elle n'existe pas. Il n'était pas possible de les faire venir ici, où on n'en a jamais trouvé.
Actuellement, nous connaissons un objet, en parlant de bijoux inca, il y a un objet qui a été découvert à Machu Picchu, non pas dans une tombe, mais enterré en fait entre deux structures de construction, qui est une manchette simple en or. On n'a pas de bijoux et de parures inca, peut-être pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de choses ont été détruites lorsque les Espagnols sont arrivés. Ce qui les intéressait, c'était l'or. Donc ils pillaient les tombes, ils pillaient les sites, tout était détruit, fondu et ramené en lingots en Europe. Donc beaucoup de choses ont disparu. Et ensuite, parce que les momies inca, qui étaient gardées dans les temples, ont également été détruites par les Espagnols. Elles ont été brûlées.
On sait justement comment cet empire inca a périclité aussi vite, la chute a été aussi brutale que l'ascension.
Oui, elle a été rapide, elle est liée à la venue des Espagnols. Donc là, pareil, plusieurs facteurs. D'une part, Quand les Espagnols arrivent, en fait, il y a des conflits internes qui vont se manifester. Donc, il y a des maladies aussi. Hein, les Espagnols arrivent avec la variole et va décimer des populations entières. Et en fait, la perte de ces symboles, de ces pouvoirs, et la perte du contrôle de la gestion de l'Empire Inca, c'est-à-dire aux différents endroits du royaume, va provoquer la chute de l'Empire.
Ouais. Aujourd'hui, le site du Machu Picchu est protégé. On essaie de limiter les visites. Si on veut le voir, on peut venir à l'exposition parce qu'il est visitable, on l'a dit, en réalité virtuelle. Je voudrais vous remercier hein, tous d'avoir participé à cette visite en avant-première. Carole Fraresso, Aïcha Bachir-Bacha et Nicolas Guepfer de nous avoir accompagnés dans cette exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou. Elle ouvrira les portes le 16 avril prochain. Merci à toute l'équipe technique, Benjamin Chauvin, Laurent César, Ibrahim Célienne, Elvis Macrel et puis Benjamin Perroux qui était à la technique, Claire Tesser, Stéphanie Texier et Stéphane Combe pour le remplacement au pied levé. Le temps d'un bivouac replie sa tente. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.